relever, restaurer, conserver le patrimoine de nos terroirs. Une émission de la Fondation du patrimoine, présentée par Bernard Cassanier et Olivier Seb.
Bonjour Eric.
Bonjour Bernard.
Voilà, vous ne vous appelez pas Olivier, vous êtes Eric.
Non, Eric je reste Dupré. Eric.
Voilà.
Jusqu'à nouvel ordre, je reste Eric.
Voilà. Si vous le voulez, Eric, la semaine dernière, nous étions dans le Gers. Cette semaine, on va enjamber une partie de ce département, presque la totalité d'ailleurs, pour se retrouver à l'autre bout des Hautes-Pyrénées, tout à fait au sud, sur la commune de Saint-Savin en Lavedan. Le Lavedat, comme on l'appelle, c'est une vallée des Pyrénées au-dessus de Lourdes et entre Argelès, Altrargues-Gazos et Pierrefitte-Nestella.
Une région que vous connaissez bien puisque vous avez grandi dans ce département.
Eh oui. Et puis, bon, il a été Jacques Chancel.
Jacques Chancel est du coin, pas loin de là. Absolument.
Voilà, pas loin de là. Il est de Saint-Pé-de-Bigorre, originaire.
Oui.
Voilà. Donc Saint-Savin, c'est une commune donc, de ces belles Hautes-Pyrénées. Hein, et elle doit son nom, Saint-Savin doit son nom à un moine qui s'est trouvé là, par hasard un jour, et qui a résidé, qui y vécu. À côté d'ailleurs, ça s'appelait Pouet-Aspé, donc c'était un hameau maintenant de Saint-Savin, ça n'existe plus, près de ce monastère de Saint-Savin qui existe toujours. Après sa mort, son corps fut descendu au village de Banser, qui n'existe plus non plus, ancien nom du village de Saint-Savin. Ouais. C'est normal.
Alors, en outre, il faut savoir que le tombeau de Saint-Savin, un sarcophage de style roman, constitue aujourd'hui encore le maître-autel de l'église de Saint-Savin. Il est classé d'ailleurs au titre des monuments historiques. De part et d'autre de l'autel se trouvent également deux grands tableaux peints sur bois qui évoquent la vie du saint, ses miracles et la ferveur des fidèles pour celui qui est devenu le saint patron de la vallée. En effet, Saint-Savin fut un des plus grands centres religieux du pays de Bigorre.
Vous voyez, on a été vernis, les Hautes-Pyrénées, parce qu'on a eu Lourdes après quand même. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Lourdes a complètement occulté Saint-Savin. Mais il y avait beaucoup de centres de pèlerinage dans les Hautes-Pyrénées, en Bigorre. En Bigorre.
Région de grande piété.
Voilà. Donc cette abbatiale de Saint-Savin est située près d'Argelès-Gazos, je vous le disais tout à l'heure, dans ce département, et témoigne d'un riche passé monastique et possède un bâti et un mobilier remarquables. Édifiée au XIIe siècle, au cœur d'un des plus beaux villages des Pyrénées, elle souffre aujourd'hui des rongeurs ou des outrages du temps. Ouais, rongée, mais c'était ça arrive aussi.
C'est un édifice vraiment imposant par sa taille et son rayonnement qui s'insérait dans la puissante abbaye bénédictine dont elle est, avec la salle capitulaire et les murs d'enceinte, le principal bâtiment parvenu jusqu'à nous. L'abbaye étendait son influence sur toute la vallée et jusqu'à la haute vallée de Cotterêts et ses eaux thermales.
Bien sûr, et alors les dividendes, enfin la prébende tombait à foison, hein. Les moines étaient très riches. Sa construction a été rendue possible par ses revenus justement et les datations importantes apportées par le comte de Bigorre et les vicomtes du Lavedan au XIe siècle.
Au XIVe siècle, elle a été surélevée et dotée d'une tour-lanterne coiffée d'un clocher en étain noir, sans doute dans un but défensif à l'occasion des troubles de la guerre de Cent Ans. Et si l'on fait l'historique du bâtiment, notons que l'abbaye connut quelques désordres lors des guerres de religion et c'est très affaibli qu'elle apparaît au début du XVIIe siècle. En 1608, 12 moines seulement y résidaient encore. En 1624, l'abbaye est délabrée, il pleut dans l'église et un côté du cloître est à terre. Malgré l'introduction de la réforme de Saint-Maur et ses projets de restauration, l'abbaye ne retrouvera pas au XVIIe et XVIIIe siècle sa prospérité d'antan. Elle périclitera ensuite lentement.
Oui, alors aujourd'hui, malheureusement, il ne reste presque rien. Il reste l'église abbatiale, parce qu'elle est devenue à la Révolution une église, mais tout le reste a pratiquement disparu. Le XVIIIe siècle sera essentiellement marqué par des procès et des contestations entre les moines et les abbés au sujet des revenus entre les moines et les habitants à propos de la vallée de Cotterêts. Toujours les eaux thermales, vous voyez, c'est le soufre. Hein,
oui, c'est des eaux soufrées, effectivement.
Vous voyez, ça devient sulfureux l'histoire, là. Elle devient sulfureuse. Entre-temps, les bâtiments avaient eu à souffrir de deux tremblements de terre importants, le premier en 1660, le second en 1754.
Et oui, il y avait des tremblements de terre à l'époque qui faisaient des dégâts. En 1790, trois moines seulement y résidaient encore, mais la Révolution française, personne ne s'en étonnera, mettra un terme définitif à toute forme de vie monastique. Les bâtiments seront vendus comme biens nationaux et l'abbatiale, sur demande des habitants, deviendra église paroissiale en 1791, en remplacement de l'église Saint-Jean, devenue trop petite et vétuste. Cette fonction d'église paroissiale perdure de nos jours.
Alors, il reste les vestiges de cette petite église paroissiale sur le chemin qui mène justement, qui est un peu en altitude, à la maison de Jacques Chancel. Très, très belle chapelle, très, très bien restaurée. Classée monument historique en 1840, l'église fut une nouvelle fois très endommagée par un fort séisme, donc ils n'ont pas de chance, les Pyrénées, 1854. D'importants travaux seront alors entrepris entre 1855 et 1863, grâce à l'architecte Beschwald, à l'appui et avec surtout l'appui de Prosper Mérimée.
Oui, qui à l'époque s'occupait des monuments historiques en France. Plus près de nous, d'autres travaux ont été réalisés. En 1903, l'escalier de l'entrée ouest, la charpente et la couverture du clocher ont été restaurés. En 1950, les fenêtres de l'abside du chœur ont été remplacées par des vitraux. Et en 1962, les charpentes et couvertures du clocher et de l'abside ont été restaurées et la tour-lanterne consolidée. En 1968, les autres couvertures et les charpentes ont été réparées. Enfin, en 1974, les extérieurs du pignon ouest et les parements intérieurs ont été repris. Ça, c'est pour le XXe siècle. En 2004, le plancher intérieur, les décors peints de la voûte de l'absidiole nord ont été restaurés également.
Voilà, et en 2007, la fenêtre de l'absidiole nord a été remplacée par une verrière bleue. Enfin, en 2017, la couverture de l'absidiole sud a été refaite en urgence, suivie de celle de l'absidiole nord en 2019.
L'architecture est romane, avec des apports gothiques au XIVe siècle. Longue de près de 42 mètres et large d'environ 30 mètres, elle est orientée comme la plupart des édifices romans est-ouest. Son plan en croix latine est composé d'une nef courte, d'un transept développé et de trois absides accolées voûtées en cul de four. La nef est divisée en trois travées de longueurs inégales.
La tour-lanterne, eh oui, il faut en parler un peu. À la croisée de l'église s'élève la tour-lanterne octogonale construite au XIVe et XVe siècle, reposant sur quatre trompes voûtées d'ogives à huit quartiers rayonnants. Bon, ça, c'est les gens qui connaissent un peu l'architecture.
Oui, là, c'est assez technique.
Cette tour cette tour permet d'éclairer l'intérieur de l'abbatiale par quatre autres baies gothiques. Sous les baies sont encore visibles les fenêtres romanes enfouies sous les combles après la surélévation à la fin du Moyen-Âge. Le clocher se termine en éteignoir.
Et les murs, me direz-vous? Eh bien, les murs de l'abbatiale sont bâtis en grand appareil de pierre calcaire. L'épaisseur est variable selon les endroits, de 1,50 m environ pour le transept jusqu'à 3,30 m pour le mur du porche d'entrée. À l'extérieur, 12 contreforts, évoquant peut-être les 12 apôtres, soutiennent la poussée des voûtes.
Alors, quelques marques de tâcherons tailleurs de pierre sont visibles sur les murs du transept sud. Vous savez que les tâcherons marquaient de leur sceau chaque pierre, puisqu'ils étaient payés comme ça, ils étaient payés à la tâche. Voilà. À l'intérieur, on note la présence de rares peintures murales peu visibles, mais vous savez qu'on en découvre heureusement tous les jours.
Alors le chevet est la partie romane la mieux conservée de l'édifice, située au-dessus de la route, soutenue par six contreforts. Il n'a pratiquement pas changé depuis le XIIe siècle, hormis la surélévation gothique. Extérieurement, la corniche possède quelques modillons sculptés et deux des cinq fenêtres du chevet sont pourvues de chapiteaux historiés. À l'intérieur, seuls les chapiteaux de la fenêtre centrale de l'abside sont sculptés, de sorte d'atlantes et de têtes d'animaux.
Le portail, bien sûr, qui est roman, en plein cintre, à profonde voussure soutenue par neuf colonnes et fausses colonnes de chaque côté, paraît avoir été retouché lors des restaurations des XVIIe et XIXe siècles, malheureusement ou malheureusement. Le tympan roman, entouré d'une frise de palmettes, a malheureusement été martelé.
On y reconnaît le Christ en gloire, bénissant, revêtu d'habits sacerdotaux et encadré par les quatre évangélistes. Des passionnés se sont penchés sur la symbolique de l'architecture et de la sobre décoration. Cependant, l'absence d'écrits parvenus jusqu'à nous rend leurs interprétations hypothétiques, peut-être que certains diraient même fantaisistes.
Alors la salle capitulaire, ou c'est la salle du chapitre des chanoines, hein, c'est les chanoines étaient les constructeurs finalement. Hein. L'autre bâtiment parvenu jusqu'à nous est la salle capitulaire. Cette salle rectangulaire d'environ 8 mètres sur 6 est composée de 6 travées carrées voûtées d'ogives en boudin. Elle communique avec la sacristie, avec la partie nord du transept de l'église, par la partie nord du transept de l'église. Les moines s'y réunissaient sous la présidence de l'abbé pour partager la règle Saint-Benoît et prendre les décisions en commun, dont celle des travaux.
Et cette salle, qui servit d'écurie après la Révolution française, a été restaurée en 1858. La retombée des voûtes se fait sur deux colonnes à base romane. L'une d'elles, au nord, possède une griffe sculptée en forme de serpent levé. L'autre, au sud, représente un quadrupède couché, sans doute un agneau. Les chapiteaux, remployés, pourraient être d'origine mérovingienne ou carolingienne. Le reste de l'abbaye, qui a sans doute servi de carrière aux villageois, peut être évoqué par les représentations graphiques qui en ont été faites au XVIIe siècle. Les terrasses classées offrent un point de vue exceptionnel, dominant la vallée des Gaves, les jardins et le verger. Le cloître a complètement disparu, mais il est évoqué par une reconstitution de la travée est, qui longe le bâtiment du musée-trésor construit en 1979 et la salle capitulaire.
Le musée abrite des pièces d'art religieux, du mobilier, des chapiteaux et colonnes de l'ancien cloître. On en a trouvé quelques morceaux. Le patrimoine mobilier hébergé est une grande richesse. Un diagnostic en 2019 a montré des dégradations menaçant bâtiments et mobilier. Les travaux sont estimés à 1 956 000 euros.
Quatre objets d'art sont en danger immédiat, il faut le savoir. Deux tableaux du 15e évoquant la vie de Saint-Savin, assombri, à l'encadrement ravagé par les insectes, doivent être sauvés. Le coût est de 86 000 euros par tableau. La Vierge des Croisades, classée monument historique au titre des objets le 21 mars 1904, presque millénaire, d'aspect byzantin, en bois polychrome, offerte en 1080 par l'abbaye Saint-Victor de Marseille, proviendrait, elle, de Syrie. Notre-Dame de l'Espérance, statue d'art populaire médiéval en bois taillé et peint, est enceinte. Elle faisait l'objet d'un culte autour de la fertilité. Ces deux tableaux sont tous deux infestés d'insectes et se délitent. Le coût de leur restauration est de 20 000 euros.
Alors Saint-Savin est une commune modeste, son budget, vous vous en doutez, est modeste aussi puisqu'il n'y a que 373 habitants. Les subventions publiques laisseront un reste à charge insoutenable pour cette commune. La participation de tous est requise donc pour, et même incontournable pour que ces travaux puissent continuer à vivre et être admiré par tous. Et puis vous qui aimez la pêche, mon ami, allez pêcher dans le gave d'Argelès, en fait le gave dit de Pau, mais il n'a jamais été de Pau.
Contrait, hein. Pau.
Voilà, bon, voilà.
Il est très long.
Il est d'abord à nous, avant que les Bernais nous en emparent. Et il y a un magnifique restaurant, là, à Saint-Savin.
Je connais un peu le coin.
Allez-y.
Merci Bernard. Au revoir.
À la semaine prochaine.
Au revoir.